Vous êtes avec SBS French. Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le cricket. Le troisième test match entre l'Australie et l'Inde aura bien lieu à Sydney au stade SCG et selon les autorités sanitaires de l'État, toutes les mesures sont en place pour accueillir les spectateurs limités à 25% de la capacité au maximum, soit 10 000 personnes par jour. Le Dakar, c'est parti. Et les meilleurs moments du rallye, c'est sur la télé SBS tous les jours à 17h30. Écoutez le français Stéphane Peter Ancel, monsieur Dakar. Avant le départ de la première étape, il est sur European Broadcasting Union.
Oui, on a eu la chance il y a 3 semaines de faire 2 petites courses en Arabie Saoudite. C'était des Baja. On a fait en fait 2 courses de 2 jours, 4 jours de roulage. Ça nous a permis de faire des réglages de voitures, de les mettre au point bien sûr, parce que l'année avait été compliquée en termes d'essais et d'entraînement, ça avait été très compliqué, on avait fait quasiment rien de toute l'année, donc ces 2 petites courses de préparation tombaient vraiment au bon moment. Et encore une fois, merci au gouvernement d'Arabie Saoudite qui a mis ça en place, parce que c'était vraiment le bon timing.
Hier, Monsieur Dakar a pris la première place du rallye. Le Vendée Globe, Yannick Bestaven est en tête devant Charlie Dalin, le deuxième homme à passer le Cap Horn dimanche. Les précisions d'Antoine Grenier pour RFI.
Charlie Dalin, deuxième homme à passer le Cap Horn dans cette 9e édition du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale. Tôt ce matin, le skipper Apivia a passé la pointe basse du Chili. 24 heures après le leader, Yannick Bestaven, 2 marins qui sont maintenant en route vers ce dernier point de passage avant la remontée de l'Atlantique. C'est Damien Séguin, le skipper de groupe Apicil, et Thomas Ruyant sur Linked Out. Actuellement 3e, le Dunkerquois s'approche à grande vitesse du Cap Horn dans des conditions qui s'améliorent mais qui restent compliqué. Le navigateur rencontre un environnement où l'eau et l'air ne dépassent pas les 5 degrés, avec un vent à 35 km/h et des vagues de 5 mètres. Et ça lui fait bizarre, c'est ce qu'il confiait lors de la vacation radio de ce matin.
On n'est pas loin du continent antarctique, on sait qu'on a le Cap Horn pas loin, on sait que le Grand Sud se termine, donc tout ça remonte un peu à la surface, hein. C'est sûr que là c'est la fin d'un gros morceau de ce Vendée Globe et dans des hautes latitudes, que je connaissais pas, donc tout ça un peu nouveau pour moi. Et ce qui est bien, c'est que les conditions là pour rejoindre le Cap sont quand même plutôt bonnes. Ça se calme pas mal, hein. Enfin, voilà, la mer elle est beaucoup moins grosse que ce que j'ai eu hier après-midi. Je suis jamais allé dans ces coins-là. C'est des latitudes extrêmes que je ne connais pas et c'est frisqué. Il y a malgré tout des lumières assez sympas là sur ma droite, quoi, dans le sud. Et c'est vrai que là je descends pas mal sud, hein. Ça caille vraiment. Franchement, je pense que si j'avais du beurre à bord, j'aurais du mal à l'étaler là.
On passe au foot en Angleterre. Hier, Liverpool premier s'est incliné face à Southampton, 1-0. Liverpool reste en tête malgré tout avec Manchester United, 33 points chacun. Dimanche, il y avait 3 matchs avec Manchester City qui a battu Chelsea 3-1 et Leicester qui a battu Newcastle 2-1. Philippe Auclair pour RFI revient sur la victoire de Manchester City.
Très honnêtement, si Manchester City avait passé 5 ou 6 buts à l'équipe de Frank Lampard, je crois que personne n'aurait trouvé quoi que ce soit à y redire. Chelsea avait pourtant commencé le match, on va dire, relativement bien, les 10 premières 15 minutes, mais après, ça a été Manchester City a déroulé son jeu comme à ses plus beaux jours. Une équipe de Manchester City dans laquelle on avait un Kevin De Bruyne qui jouait en faux numéro 9. Eh oui, pas de Gabriel Jesus, pas de Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, donc en faux numéro 9, et bon, ils ont fait le festival. Mais autant on a été séduit par Manchester City, autant on est inquiet des prestations de Chelsea, très honnêtement, qui confirment la baisse de niveau de l'équipe de Lampard depuis un petit bout de temps, en fait, hein, puisque si vous pensez, depuis le 5 décembre, quand ils avaient battu Leeds United, c'est 6 matchs de championnat depuis, mais une seule victoire, c'était contre West Ham le 21 décembre, et là, ça commence à faire un petit peu désordre, défaite contre Arsenal, nul contre Aston Villa, défaite contre Manchester City. Manchester City se replace dans la course au titre, bien évidemment, mais pour Chelsea, ça sent un peu moins bon.
Le match Burnley-Fulham reporté à cause du virus. Il y avait des cas de Covid parmi le personnel de Fulham. Un mot sur l'impact du Brexit sur le foot anglais avec Antoine Grenier et Philippe Auclair pour RFI.
Le Brexit va compliquer un petit peu la situation parce que le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Europe. Ça va changer beaucoup de choses concrètement pour les clubs anglais.
Ça va changer beaucoup de choses, peut-être pas pour les grands clubs anglais, ça va changer beaucoup de choses pour les divisions inférieures, à savoir que l'exportation de joueurs que vous aviez depuis l'Union Européenne, et en particulier depuis la Ligue 1 et la Ligue 2 vers le Championship, donc la D2 anglaise ou D3 ou D4, à mon avis ça s'est quasiment terminé. Par contre, pour les gros clubs, vous avez malgré tout un système, un barème de points qui leur permettra de continuer d'accrocher les grosses signatures. Alors oui, c'est vrai, vous n'aurez plus un Riyad Mahrez ou à N'Golo Kanté débarquant de Caen ou du Havre comme ça, complètement inconnu et se faisant un nom dans le championnat d'Angleterre. Mais vous aurez toujours des Timo Werner, des Kai Havertz. Ils pourront toujours venir. Ça, absolument aucun changement de ce côté-là. Le gros changement, par contre, c'est la cessation du recrutement de joueurs mineurs. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact beaucoup plus prononcé sur la façon dont les choses se passent et sur le continent et sur en Angleterre. Moins de 18 ans, vous ne pouvez pas signer pour un club anglais. C'est aussi clair, net et simple que cela.
On passe en Espagne où l'Atlético de Madrid repasse en tête après sa victoire contre Alavés 2-1. À noter la victoire du FC Barcelone, 5e au classement, contre Huesca, 1-0. Et la Real Sociedad, 3e au classement, a fait un match nul, 1-0 avec Osasuna. En Italie, l'AC Milan reste en tête après sa victoire contre Benevento, 2-0. Et l'Inter Milan, 2e, a battu Crotone, 6-2. En Allemagne, le Bayern de Munich garde la tête du classement en battant Mayence, 5-2. En France, Maurizio Pochettino, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, a effectué son premier entraînement. Cédric de Oliveira, RFI.
Et l'Argentin a pu profiter de tout son groupe, même si Neymar, de retour du Brésil, est resté aux soins. Le Brésilien est toujours blessé à la cheville gauche. En tout cas, première prise de contact entre Pochettino et ses joueurs. Le nouvel entraîneur parisien, très content de retrouver un club qu'il a connu en tant que joueur de 2001 à 2003.
Je suis très heureux d'être là, c'est une opportunité incroyable, c'est un projet excitant, je suis content de revenir ici. Je me souviens de cette énergie à Paris, c'est magique. Je me souviens avoir passé des soirées fantastiques au Parc des Princes avec nos fans. Comme à l'époque, le plus important dans un très grand club comme le Paris Saint-Germain, ce ne sera pas seulement de gagner, il faudra gagner, mais avec du style.
But with a style. À Mauricio Pochettino qui connaîtra ses premiers frissons d'entraîneur du PSG mercredi à Saint-Étienne.
Un mot de rugby, le top 14 en France, 2 matchs aller de la 13e journée dimanche. Le Stade français a battu Brive 51-21 et le Racing 92 a battu Clermont 24-22. Basket, NBA, une première avec une femme qui a coaché une équipe, celle des Spurs, Becky Hammond. Écoutez le reportage de Loïc Piala et d'Antoine Grenier pour RFI.
Une première dans le basket, c'était une première même dans un sport majeur américain. Et ça s'est passé mercredi soir à San Antonio lors de la rencontre entre les Spurs et les Lakers.
Alors, les Spurs étaient menés 52-41. Il restait 3 minutes 56 secondes à jouer dans le deuxième quart-temps quand Greg Popovich, l'entraîneur de San Antonio, s'est fait expulser. Connu pour ne pas être un grand bavard, un pop comme on le surnomme, a simplement dit à son adjointe « Ils sont à toi, you got them » en anglais, hein, 3 mots pour faire entrer Becky Hammond dans l'histoire. Malheureusement pour les Spurs, elle n'a pas pu empêcher la défaite 121-107. Mais en face, c'était le champion en titre, après tout. Je vous propose d'écouter la réaction de la coach hein, juste après la rencontre. Elle a parfaitement conscience de l'impact de ce moment.
C'est important, c'est un moment marquant, mais honnêtement, j'essayais surtout de gagner le match. Je l'ai déjà dit, mais j'essaie de ne pas trop penser à tous les enjeux et à leur ampleur, parce que ça peut être écrasant.
Alors Loïc, les amateurs de basket connaissent un peu Becky Hammond, mais pour les autres, il faut rappeler qu'elle ne sort pas de nulle part.
Ah non, Becky Hammond, c'est 16 saisons de WNBA, la ligue féminine, d'abord avec le New York Liberty, puis à partir de 2007 avec les Silver Stars de San Antonio. La meneuse a aussi participé aux Jeux Olympiques sous les couleurs de la Russie avec une médaille de bronze à la clé à Pékin. Popovich a repéré ses qualités de leadership sur le terrain et lui a proposé d'intégrer son staff en 2014. Elle est devenue après la première femme coach à plein temps en NBA. Elle coanime les séances avec Popovich. Elle s'est même occupée quelquefois de l'équipe en Summer League, ce tournoi pour les rookies avant le début début de saison. En 2018, elle a même eu un entretien d'embauche pour le poste de coach principal à Milwaukee. Et l'an dernier, après une expulsion, elle aurait déjà pu entraîner en match, sauf que là, Popovic avait choisi Tim Duncan, l'ancienne star de l'équipe. Cette année, Duncan est parti. Et comme l'entraîneur aux 5 titres NBA a une tendance à agacer les arbitres, 25 expulsions en 24 ans sur le banc, Amon aura peut-être à 43 ans encore une chance de coacher cette saison avant peut-être de lui succéder ou d'être choisi par une autre équipe. On a un peu le sentiment que c'est son destin.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.